Cette semaine à la vie en BD, on parle de bande dessinée gore et horrifique. Bon mardi à toutes et tous, bienvenue à cette édition de La Vie en BD, Raymond Poirier avec vous, et je pense qu'en 13 ans d'émission, c'est la première fois que La Vie en BD tombe sur le soir d'Halloween. Alors on va se faire plaisir, quand j'ai commencé à la radio il y a déjà pas mal d'années, je lorgnais beaucoup dans l'univers du cinéma d'horreur. J'étais moins un lecteur de bande dessinée à l'époque. Aujourd'hui, je suis devenu un lecteur de bande dessinée au fil des années. Et on ne peut, en dehors de quelques entrevues, ça et là, accorder de temps, justement, d'idées et de suggestions autour de la bande dessinée à tendance horrifique. Alors, c'est ce qu'on va faire cette semaine. Une forêt, là, vraiment, pendant une heure autour de ce genre-là et de ses niches également. En deuxième moitié, en fait, pour sortir un peu de mes idées, de mes lectures, j'ai demandé à Édouard Tremblay, donc collaborateur régulier ici à l'émission, d'y aller avec une sélection de trois titres de styles et de niches différentes, de genres d'horreur différents. Donc, il va nous proposer ça en deuxième moitié. Et en première moitié, au fil des événements, des conventions, des activités, je l'avais croisé entre autres au Salon du Livre de Québec, qui va être au Festival de la BD de Gatineau en décembre, donc très actif. On l'avait reçu aussi dans le temps des groupes métal du Québec, donc il faisait partie de ce collectif, il s'appelle Steph Dumais, et il porte depuis 10 ans, 10e anniversaire cette année, donc une boîte d'édition qui s'appelle Bloody Gore Comics, qui donne le nom, et le dit, dans le comic Gore et sanglant. Alors, on va jaser avec lui pour la première moitié de l'émission pour voir un peu la structure, l'évolution de tout ça et parler un peu aussi de son travail à lui. Alors, c'est le menu pour cette édition halloweenesque de La Vie en BD. Ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que Bloody Gore Comics est dans le paysage de l'édition. Au Québec, en fait, c'est un éditeur indépendant, un éditeur qui donne dans le comic sanglant, dans le comic gore et tout ce qui l'entoure. On a choisi de prendre le temps cette semaine de plonger un peu dans l'histoire, dans l'évolution de cette maison d'édition-là, mais aussi du créneau qu'elle représente. Et on le fait avec un auteur, illustrateur, éditeur, donc le multitâche de cette maison. Steph Dumais, bonjour.
Bonjour.
Alors, je disais, dans le fond, ça fait une dizaine d'années que tu t'es lancé dans l'aventure Bloody Gore Comics. Donc, ça a commencé en 2013. Et au départ, dans le fond, c'était essentiellement parce que toi, tu avais des BD qui étaient dans ce créneau-là, je pense à Zombie Commandos from Hell. Et finalement, il n'y avait pas d'éditeur qui avait envie ou qui avait possibilité de l'éditer ici au final?
Ben, en fait, j'avais un éditeur aux États-Unis pour ça. Puis il m'est arrivé des situations un peu désagréables, comme ne pas me faire payer par cet éditeur. Ça a laissé un petit goût amer. Puis j'ai décidé de. Ben, j'avais trouvé un autre éditeur par la suite. Lui, il n'a pas continué. Fait que je me suis dit, ben, pourquoi pas le faire moi-même? Puis j'étais habitué à l'auto-édition de toute façon parce que des années auparavant, je faisais des fanzines. Fait que c'était rien de nouveau pour moi. C'est juste que là, c'était un peu plus léché avec une plus belle production.
On se lance un peu, ben en fait, pas complètement naïvement parce que tu avais déjà fait de l'auto-édition, mais avec peut-être un peu de naïveté parce qu'on ne se rend pas compte nécessairement de l'ampleur du travail qu'on va avoir à faire pour se bâtir un brand d'une certaine manière.
Exact. Au début, j'ai demandé un peu d'aide. Je connaissais pas beaucoup de monde qui faisait un peu dans le même genre que moi au Québec. Fait que je m'étais allié surtout avec des Américains parce que c'était ancré un peu dans cette culture-là, l'underground d'horreur américain. Puis quand j'ai parti ça, Bloody Gore Comics pour Zombie Commando, en parlant avec quelqu'un d'un de ses créateurs, on s'est dit je pourrais publier vos auto-éditions aussi, puis on fait ça sous la bannière de Bloody Gore Comics. Fait que ça a commencé petit comme ça, puis c'est ça a grandi par la suite.
Oui, puis tranquillement, en fait, on voit, comme tu dis, avec quelques auteurs, puis après ça, il y en a d'autres qui s'ajoutent, puis finalement, on se ramasse avec des anthologies où on a des créateurs d'un peu partout dans le monde, au final, qui en viennent à collaborer avec toi.
Exact. C'est ça qui est le fun aussi, là. J'ai des gens de plein de pays, Italie, Pologne, Russie, France, vraiment d'un peu partout, Australie. Fait que ça donne une belle saveur internationale.
Oui, puis j'imagine que ça veut dire aussi parce que si on regarde sur l'accomplissement au fil de 10 ans, mais que s'il y a des gens qui viennent à toi, qui restent avec toi, qui continuent à travailler un peu et à te proposer des créations, mais ça veut dire que tranquillement, tu es en train de t'établir dans cette niche-là qu'on entend peut-être un peu moins parler médiatiquement parlant, mais qui est bien vivante, qui est bien active un peu partout à travers la planète au final.
Oui, cette scène underground, spécifiquement dans l'horreur, c'est très actif dans plusieurs pays. Puis sans surprise, la plupart de ces créateurs-là, c'est de l'auto-édition. Il y a des trucs des fois qui sont on peut dire trop trash pour les gros éditeurs. Mais moi, mon but un peu, c'était de ramener les choses un peu comme dans les années 80 aux États-Unis avec Caliber Press. North Star, ça a évolué, les gens appellent ça les Outlaw Comics maintenant. Il y a comme un nom de ce sous-genre-là. Je considère Bloody Gore Comics un peu plus large que ça parce que c'est pas strictement du hardcore comme ça. Tu sais, j'ai beaucoup d'humour aussi. Il y a des trucs qui sont plus érotiques. La palette est quand même un peu plus large avec ce que je fais.
Oui, en fait, il y a une direction générale où on dit, OK, on est dans le monde du gore, mais effectivement, ça serait un peu le simplifié de dire, ben, c'est juste cette ligne-là ou c'est juste cette ligne-là, ça peut aller très loin, comme on peut s'inspirer de ça et rester quand même dans des choses qui sont plus soft, là, pour rester dans les termes anglais, là.
Oui, exact. J'ai vraiment les deux extrêmes, là. J'ai des trucs qui sont accessibles, même à la limite, je pourrais dire, pour des enfants, là, mais c'est juste un peu violent, mais je veux dire, il y a pas, c'est sans trop être extrême. Puis j'ai à l'autre fin du spectrum, la toute dernière BD que je vais sortir bientôt, que je viens de terminer une campagne Kickstarter, qui est carrément de la porno gore.
Et nécessairement, dans le fond, j'imagine que toi, comme éditeur, il y a toujours le défi de dire, bon, OK, j'ai un produit qui est quand même relativement niché, donc à quel tirage je vais aller chercher, de quelle manière je vais lancer, l'organiser. Il y en a beaucoup qui disent dans l'édition indépendante que les Kickstarter donnent un coup de pouce là-dessus parce que tu sais, OK, il y a un marché, c'est à peu près ça mon cadre de départ, donc ça te sécurise aussi parce que un produit comme ça, ben, comme celui que tu mentionnes, ben, reste que c'est pas nécessairement. On est loin du grand public, mais il y a un marché qui existe pour ça qui est assez présent aussi, là.
Oui, ben c'est ça qui est fun avec justement Kickstarter, c'est des gens qui sont des fans hardcore qui veulent la totale. J'ai même affaire, j'ai essayé de quoi de différent cette fois en offrant une version avec une couverture souple et une couverture rigide. La couverture rigide était, même si c'était plus cher, était plus populaire. C'est des gens qui veulent vraiment ça. Puis c'est l'avantage aussi d'une campagne de sociofinancement, c'est que je vois ça comme des précommandes, au fond. Fait que ces gens-là financent la production du livre, mais moi, je mets un peu plus pour produire plus de livres pour les vendre par la suite. Fait que ça, c'est vraiment là, c'est parfait, là, parce qu'après ça, je continue au courant de l'année suivante. Fait que ça. Je suis rendu au point où que ça se nourrit lui-même. Bloody Gore Comics finance les choses. Au début, c'était beaucoup d'argent que moi, j'investissais personnellement. Mais maintenant, je suis rendu au point où les ventes financent les prochaines productions. Fait que ça roule très bien, je trouve.
Oui, puis 6 sur 10 ans, ça reste quand même, c'est un peu l'objectif aussi. Si on n'aura pas un succès instantané en 1 an, 2 ans, 3 ans, il y a du travail à faire. Donc, si après 10 ans, tu dis, bah, OK, on est rendu au point où je suis capable de rouler sans perdre d'argent, sans pas en faire non plus du tout, ben nécessairement, tu dis, OK, tu sais, j'ai réussi à amener ma boîte à un niveau qui est quand même intéressant.
Ah oui. C'est sûr que le rêve, ça serait de me rendre au point où je pourrais faire ça tout le temps à temps plein, mais en ce moment, c'est un niveau assez que ça vaut la peine de continuer.
Oui, parce que ben en fait, puis c'est toujours un peu la question quand on tombe, parce que pour moi, c'était une niche dans une niche. Je veux dire, la BD d'horreur en soi, c'est déjà un genre qui est niché, mais qui devient quand même peut-être un peu plus vers le grand public, je veux dire. Puis en même temps, il y a toujours une distinction à faire entre les marchés asiatiques, les marchés américains, le marché franco-belge. L'horreur est moins présente dans la BD franco-belge où elle émerge tranquillement. Mais du côté américain, tu le disais, c'est une scène qui existe depuis longtemps, qui est pas sortie de nulle part, qui est bien établie. Du côté asiatique, l'horreur, c'est dans les grandes traditions. Je veux dire, il y a un sous-genre de manga qui est juste ça. Donc nécessairement, après ça, si on la distribution en anglais devient un peu incontournable parce que le gros des marchés pour lesquels t'as pas de bâton de pèlerin à prendre pour vendre le genre, ben c'est du côté anglophone nécessairement, j'imagine.
Oui, ben je dirais qu'à peu près 70% de mes ventes se font aux États-Unis. J'en fais aussi dans des pays latins, comme en Amérique du Sud, puis en Europe, mais en Australie, ben ça c'est anglophone, ça c'est ça va de soi. Un peu en Europe, mais évidemment c'est surtout en Angleterre. Mais je vends aussi un peu en Allemagne et en France. Fait que c'est j'aimerais faire des éditions. J'ai essayé une édition en français. Ça a pas marché autant que j'aurais voulu, mais ça serait peut-être. Je suis pas fermé à l'idée de traduire de plus en plus mes trucs là, éventuellement.
Oui, mais en fait, c'est toujours en fonction de la demande, puis que tranquillement, dans le fond, l'horreur arrive aussi, ou du côté francophone, du côté franco-belge, ça va donner un petit coup de pouce aussi. Ou sinon, ben, les gens, évidemment, la découvrent aussi par les comics, par le reste, peuvent en arriver un peu vers toi, vers le genre gore aussi, spécifiquement. Mais avec, tu sais, dans le mainstream, je pense à Jake Dion, par exemple, ben, il y a des éditeurs mainstream au Québec qui vont tendre vers une certaine horreur.
Ben
Ben
oui.
nécessairement, ces albums-là, j'imagine, deviennent des portes d'entrée pour découvrir le genre, puis pour éventuellement tomber vers des éditeurs indépendants plus spécialisés, dans le fond.
Ben oui, c'est clair. Justement, en jasant avec Jake, j'ai réalisé que lui, il m'ouvrait les portes. J'ai peut-être des gens que s'il n'aurait pas découvert ce que lui fait, ne seraient pas au courant de ce que moi je fais, des types de publications qu'il n'aurait peut-être pas remarqué avant.
Et en même temps, ben, quand on feuillette les albums aussi, t'sais, le style, je pense que tu le mentionnais tantôt, on est quand même dans le style underground américain, des dessins qui sont assez chargés, un côté BD qui est là, qui est présent, mais avec aussi, après ça, il y a une variété de styles, évidemment, comme il y a une variété de genres d'appropriation, mais ça reste pour moi, la grosse influence me renvoie beaucoup à l'esthétique de ce type de comics-là qui était très, très présent, ou du moins qui ont forgé l'imaginaire, mais beaucoup des années 80-90, et le reste avec.
Ben, c'est avec ça que j'ai grandi. Je me souviens, j'avais déjà raconté cette histoire-là quand j'ai fait ma transition quand j'étais plus jeune ado. J'étais encore dans les super-héros comme beaucoup de gens. Il y a des gens qui grandissent avec les mangas, des gens avec la franco-belge. Moi, j'avais grandi avec les comics américains, donc je trouvais ces super-héros. Et quand j'ai découvert qu'il existait des comic shops, j'étais allé dans mon premier comic shop. Et ce que ça a fait, c'est que j'ai découvert la section des BD alternatives. Là, il y a tout un nouveau monde qui s'est ouvert. J'ai délaissé les super-héros, puis je suis rentré à fond dans les trucs déjà d'horreur de l'époque. Puis ça a changé ce que moi je faisais aussi, parce que je faisais déjà des fanzines à l'époque. Puis mes fanzines étaient lourdement influencées par ça. Fait que moi, ce que je créais, c'était pour moi, en fait. Souvent, c'est ça aussi, un artiste crée ce qui lui plaît, en espérant qu'il y a d'autres gens qui aiment ça. Puis des années plus tard, je me disais, je vise avec mes BD les ados comme moi qui allaient dans un comic shop. Mais je me suis aperçu que ça n'existait pas tant. Les gens qui achètent mes BD, c'est des gens de mon âge qui ont vécu cette adolescence-là aussi. C'est pas les nouveaux, c'est pas les plus jeunes que je m'aperçois qui s'intéressent à ça, mais il y a une solide base de gens, comme je disais, de ma génération, qui ont vécu, qui ont grandi avec ça, et qui ont aussi les moyens de s'en acheter pas mal.
Oui, puis j'imagine en fait qu'il y a comme une dynamique où la porte d'entrée à l'époque, c'était un peu comme pour les CD, c'est les magasins. Je veux dire, le magasin existait, on était moins dématérialisé là-dessus. Aujourd'hui, ces communautés-là, puis les portes d'entrée, ça devient, j'imagine, aussi un peu les conventions. Donc oui, les Comic-Con, mais il y a aussi tout le monde des conventions de l'horreur. Donc du moment où on commence à s'intéresser à ce genre-là, ben on peut faire le pas vers une convention et là, on va te trouver parce que j'imagine que c'est là aussi qu'il y a une bonne partie des ventes au-delà du magasin en ligne qui vont se faire dans des événements.
Oui, c'est une bonne partie du chiffre d'affaires de l'Igor Comics, c'est les conventions, les petites conventions d'auto-édition, les trucs comme Exposin ou Canzine à Toronto et à Ottawa. Mais ça a grandi. J'ai commencé à faire les conventions d'horreur, puis là, j'ai découvert que j'étais une petite section à l'intérieur d'un plus grand genre, que c'était pas nécessairement de la BD, donc je me spécialisais même là. Puis c'est des gens qui découvrent ça, qui savaient pas que ça existait des BD comme ça.
Oui, parce que, ben, en fait, veut pas, ça reste que ça évolue loin du spectre médiatique. Puis ça doit être un défi de lancer un Bloody Boar, en fait, puis de le porter depuis 10 ans. Je veux dire, t'es quand même le seul dans, il y en a pas beaucoup qui font ça au Québec en termes d'édition, même en termes de BD, je dirais pas, j'aurais presque envie de dire anecdotique. Donc, t'as deux, trois travails à faire parce qu'il faut que tu fasses connaître le genre, faut que tu fasses connaître ton édition, ton travail, puis que tu amènes les gens à quelque chose qui parfois aussi va les rendre inconfortables, dans le fond, parce que toutes ces BD-là sont. Y en a qui sont faites aussi pour nous mettre dans des situations un peu de déséquilibre,
Oui,
j'aurais envie de
oui.
dire, dans un inconfort.
Ben moi-même, les personnes que je publie, comme la toute dernière que j'ai mentionnée tantôt, c'est assez hardcore que je suis moi-même inconfortable quand je lis, mais c'est ça qui m'intéresse. Ça va au-delà des attentes, ça brise un peu des barrières. Puis, mais comme tu disais, c'est un challenge de faire connaître ça. C'est la partie la plus difficile de faire tout ça, c'est le marketing, disons. C'est beaucoup d'énergie, puis ça peut être un investissement. Puis c'est, je préfère, tu sais, je peux pas tout faire non plus à l'infini. Fait que je préfère produire puis m'organiser de ce côté-là. Mais c'est sûr que j'aimerais mettre plus d'énergie dans le marketing, me faire connaître.
Mais tu sais qu'au départ, tu es là parce que tu as envie de faire des albums, tu as envie de faire des
Ouais,
BD, tu as
c'est
envie de faire
ça.
des comics. Fait que, à un moment donné, la job d'éditeur, ça prend toute la place, ben c'est ton plaisir qui est plus au rendez-vous non plus.
Exact, exact. C'est en plein ça. Ça serait le fun de grandir assez que je serais pas tout seul. J'ai des gens qui m'aident comme ça. Il y a quelqu'un aux États-Unis qui me représente dans des conventions. Fait que moi, j'y ship des copies. Fait que ça aide. J'ai des gens qui, j'ai comme un street team, comme on appelle là, des gens qui m'aident à faire de la promo en ligne. Mais à la base, moi, j'allais juste j'attirais les gens qui aiment déjà ça. Je me contentais de ça, mais j'essaye là d'aller plus loin. Et j'ai déjà connu la distribution à travers Diamond, la grosse distribution aux États-Unis. C'était très bien. Je faisais pas beaucoup d'argent avec ça, mais faudrait que je m'y remette là. Ça, c'est aussi un paradoxe là, à rentrer dans le réseau de distribution. Puis il y a des pour et des contre. C'est sûr que ça j'en bénéficierais, mais là, en tout cas, en ligne puis dans les événements, ça va très bien quand même.
Oui, parce que j'imagine c'est toujours un peu l'équilibre où veut pas si t'as une grosse distribution, faut que t'aies un gros tirage avec pas nécessairement des garanties non plus que ça va marcher à la hauteur de l'attendu, tandis que là, avec ton approche où tu dis bon ok on balance, mais parce que tu sais ok je vais faire des petits tirages, je vais m'ajuster, je peux faire des retours, je peux faire des relances, etc. Mais d'avoir une variété d'albums disponibles en tout temps plutôt que d'avoir des gros tirages de trop
Exact.
d'albums puis
C'est ça, en ce moment, je peux maintenir quand même une diversité. Là, j'ai un peu de rattrapage à faire. Là, j'ai écoulé bien des titres, mais je me concentre sur les dernières publications, en fait. Mais quand j'ai assez de demandes, là, ben, je refais un autre tirage d'une ancienne BD. J'ai des titres qui ont eu 4-5 tirages, fait que ça roule assez bien. Mais je pense que c'est ça. J'ai choisi l'approche un peu lent et sûr, puis je pense que ça fonctionne.
Et si on se reporte un peu, parce que on a ouvert la porte sur tes premières visites dans les comic shops, vers la découverte de la BD alternative, de la BD d'horreur, c'est quel déclic qui s'est fait justement quand tu t'es rendu compte que OK, ça c'est ce que j'aime, c'est ce que j'ai envie de lire, c'est ce que j'ai envie de faire. Je veux dire, qu'est-ce qui t'a séduit, qu'est-ce qui t'a attiré peut-être particulièrement dans ce style-là?
Ça fait cliché, là, mais je pense que le choc m'a allumé, là, c'est waouh, on peut faire ça, ou waouh, son game de faire ça, voyons donc qu'ils vendent ça. C'était tu sais, je pense à moi qui étais ado, là, je pense que j'avais 14 ans, j'étais avec mon ami, je dis, regarde ça, voyons donc, ça n'a pas d'allure, j'ai jamais vu ça dans un comic. Puis, on ne savait même pas c'était quoi l'histoire, mais juste parce qu'il y a quelqu'un qui se faisait décapiter puis manger vivant, on l'a voulu à ce BD-là.
Puis après ça, tu te dis, OK, ben, si lui peut le faire, ben, pourquoi pas moi aussi? Tu faisais déjà des fanzines, tu te lances un peu là-dedans. Puis en 99, tu as commencé avec ta série, j'en parlais, on le mentionnait tantôt, Zombie Commando Stromel. Donc ça va être depuis 99, au bout du compte, que tu es sur ce créneau-là, puis que tu animes aussi cette série-là.
Ben, c'est ça, Zombie Commando. On mentionnait Internet tantôt, en dehors des endroits physiques. En 99, j'avais déjà, ça faisait pas longtemps que j'étais déménagé à Montréal. J'étais parti de Gatineau. Puis, j'avais commencé à faire connaître mon fanzine à Montréal. Fait que j'allais dans les magasins comme ça. Puis j'ai commencé à découvrir d'autres fanzines en ligne. Ça, il n'y en avait pas beaucoup dans ce temps-là. Puis j'avais rencontré Jake Carnes ou Jason Carnes, selon son pseudonyme choisi. Il faisait Tales from Uranus, qui était une BD d'un fanzine d'horreur qu'il produisait lui-même à la maison. Puis c'est avec lui qu'on a créé Zombie Commando. Après, on diffusait ça en ligne, puis j'ai décidé, hey, je peux imprimer ça. Puis là, j'avais mon premier emploi là, à temps plein après mes études. Je me dis, j'investis là-dedans, je me fais un gros tirage. Puis je pense que je suis allé trop loin pour lui. Parce que lui, il voulait garder ça comme un petit fanzine underground. Il a décroché, mais moi, je l'ai continué.
Et c'était un premier, disons la première série diffusée à un peu plus grande échelle. J'imagine aussi une série d'apprentissage pour toi où tu explores, puis tu vois aussi jusqu'où tu veux aller, jusqu'où tu peux aller, puis éventuellement, à partir de ça, ben là, OK, on va développer d'autres séries, on va faire des one-shots, on va
Exact.
explorer. Ça définit un peu tes zones d'exploration.
Oui, ben ce que ça m'a permis de faire, c'est qu'après le premier numéro, il y a un éditeur qui s'est intéressé. Fait que les autres numéros par la suite étaient publiés aux États-Unis, le réseau de distribution Diamond, tout le kit, ça m'a donné un gros coup de pouce. Fait que ça m'a motivé à faire élaborer cet univers-là que j'avais commencé. Les spin-offs, les collaborations, ça a toute partie de cette machine-là.
Il y a même un jeu de cartes à cette heure aussi.
Au début, c'était supposé être un jeu de société avec une gestion de ressources, des pions, tout le kit. On s'est aperçu que c'était trop, on voyait trop gros. Puis on a ramené ça à un jeu de cartes, puis ça a bien marché. J'ai fait un tirage, puis ils sont tous vendus. Fait que je suis bien content.
En fait, ça doit être assez stimulant de voir justement qu'un univers qu'on porte depuis longtemps, ben, tu sais, ça devient aussi quelque chose de central, même pour Bloody Gore Comics, parce que j'imagine que c'est dans les bonnes ventes aussi, ou du moins que ça l'a été.
Oui, c'est toujours, mais dans les conventions, ma série, c'est toujours ce qui vend le plus, encore. Ça, puis les anthologies. Puis c'est pas terminé, il me reste un numéro à faire. C'est juste que j'ai tellement d'autres projets entre-temps. Mais un jour, je passe ce dernier numéro-là.
Puis pour ceux qui connaissent pas, en fait, qu'est-ce que ça raconte, en gros, là, les Zombie Commandos from Hell?
Zombie Commandos from Hell, c'est une histoire post-apocalyptique, surnaturelle. J'aime ça décrire ça comme un mix entre Mad Max et Evil Dead. Dans cet univers-là, le monde c'est déjà l'enfer. Il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus de structure. C'est des motards, des sectes, des mutants. Ils sont toutes des sociétés isolées, en guerre constante. Puis, à travers ça, il y a la mère nature qui regarde la Terre, qui est déçue que sa Terre est en train de mourir. Fait qu'elle fait un pacte avec le diable. Elle lui donne accès à la Terre. Elle lui dit, chaque fois qu'un humain meurt, un démon peut prendre possession de son corps. Fait que mes zombies, c'est des vaisseaux pour les démons. Et leur but, ben, c'est exterminer la race humaine. Fait que je m'amusais à dire que c'était un message écologique, c'est la mère nature qui est strike back.
On ancre ça dans les thématiques actuelles. Puis en même temps, après ça, d'un point de vue visuel, ça te permet d'explorer aussi parce que j'imagine que des séries comme ça, quand on regarde les premiers albums, les
Ah ouais.
premiers comics que tu as fait, puis aujourd'hui, tu vois à quel point tu as appris, tu as avancé, tu as progressé dans ton style, dans la maîtrise des couleurs, etc., etc.
Ben ça, c'est ma série, c'est le meilleur exemple de voir ma progression parce qu'on peut voir des trucs que j'ai fait au courant des années, différents projets, mais qui se ressemblent pas nécessairement. Mais Zombie Commando, c'est la même série. Puis ce qu'on voit dans le premier numéro, puis dans le dernier, ça n'a rien à voir, là. Mon style de mon trait, c'est raffiné. On voit comment je maîtrise de mieux en mieux l'anatomie, tout ça, la composition. C'est au point où je suis même un peu gêné de mes premiers numéros, mais on me rassure tout le temps que c'est ça l'intérêt, c'est voir l'évolution.
Oui, puis en même temps, ça peut paraître bête, mais la violence en BD, ça implique du mouvement, ça implique des fluides, ça implique, je veux dire, tu parlais d'une décapitation tantôt, ben je veux dire, OK, thématiquement, on se la figure, mais au cinéma, les effets spéciaux, on voit, mais en BD, pour réussir à bien rendre ça, c'est pas nécessairement si facile que ça, au bout du compte, à schématiser le gore en BD, au final, le sang et le reste non plus, là.
Ben, c'est ça qui m'intéresse surtout, c'est ce que j'aime le dessiner le plus, c'est le dynamisme, l'action. Dessiner une BD de juste de gens qui se parlent, c'est pas mon trip. Fait que dessiner des j'imagine, j'essaie de prendre le point de vue comme un réalisateur de film, au fond, le point de vue de caméra, j'imagine le mouvement, puis ce que j'essaie d'apporter au lecteur, c'est vraiment qu'il voit ça animé, qu'il regarde la page, puis dans sa tête, ça bouge. C'est ça mon objectif.
Puis avec dans le fond des éléments de détail, des éléments musculaires, parce que encore là, on est quand même dans un style un peu qui imprègne l'américain. J'essaie un peu de le décrire, mais en même temps, le plus simple, ça va être que les gens aillent feuilleter sur bodyguardcomics.com en choisissant ce qu'ils ont envie de feuilleter. Aussi, voir un peu dans tes productions, mais tu sais, dans le fond, il y a une notion, parce que tes pages de ce que je me rappelle avoir vu, c'est quand même assez plat, assez dense aussi. Donc, ça devient peut-être un exercice aussi de composition qui est quand même assez intense. Je veux dire, quand tu es dans une accumulation comme ça aussi.
Ben c'est ça, c'est un ballon parce que si on pense aux mangas qui sont très forts dans le dynamisme et l'action, c'est souvent accompli avec des traits plus minimales pour laisser place au mouvement. Et moi, c'est comme si je pas annuler ça, mais je contrebalance ça en chargeant de détails. Fait que c'est toujours j'essaie de j'aime aussi j'aime beaucoup les textures. Fait que c'est ça, c'est pour ça que j'aime remplir mes pages. Fait que c'est d'essayer de garder ça en mouvement, mais tout rempli aussi. C'est vraiment là, c'est ça, c'est difficile à balancer des fois, mais je pense que j'y parviens.
Oui, puis dans la couleur aussi, des fois, ça permet de faire un équilibre où certains éléments, par exemple, il y a certains de tes titres où il y a des éléments plus bleutés, par exemple, pour le fond, un personnage qui est plus mauve qui va ressortir ou des éléments comme ça. Donc, ça permet de faire des jeux pour créer de la texture avec la couleur aussi, créer du relief avec la couleur.
Oui, ben avec l'exemple que tu as donné, c'est avec ma BD de science-fiction, Renegade. Ça, ce que j'expérimentais, parce que beaucoup de mes BD sont en noir et blanc, puis là, je les fais en couleur, puis je voulais tenter quelque chose qui d'utiliser la couleur justement pour mettre en valeur les éléments importants. J'ai fait ça par observation aussi en lisant d'autres BD, je voyais comment c'était utilisé, comment que ça marchait bien. Fait que ça, c'est un autre côté de ce que je fais, c'est beaucoup d'expérimentation. Même à l'intérieur du Zombie Commando, j'ai fait des tests. Au début, du lettrage à la main, après une typo, après j'aimais pas la typo, après ça, j'ai créé ma typo. Je fais beaucoup d'expérimentation en allant d'un numéro à l'autre. Avec le cas de Renegade, j'en suis au deuxième numéro, puis je travaille actuellement sur le troisième. J'essaie de garder ça quand même tout ensemble dans le même style. Je ne fais pas trop d'expérimentation d'un numéro à l'autre, mais cette série-là en soi, c'est une expérimentation.
Puis en fait, ça doit devenir stimulant quand justement le désir d'expérimentation de l'auteur, Steph Dumais, va rencontrer Steph Dumais qui lui travaille sur monter une anthologie, par exemple. Là, tu te ramasses à avoir plein de styles, mais le côté éditeur remplace un peu le côté lecteur parce que ça donne une belle excuse pour aller voir plein d'auteurs, pour aller faire des relations avec des auteurs qui t'inspirent, voir un peu comment ils travaillent, les amener à travailler peut-être un peu avec toi, puis tranquillement aussi au fil de ces rencontres-là, ben, te laisser influencer à gauche, à droite, là.
Ben oui, parce que je collabore beaucoup pour mes anthologies ou quand je fais des collaborations, autant des gens que je connaissais pas leur travail avant, que je découvre, que des gens que j'admirais, que je suis rendu au point où ce que je peux demander à des gros noms que j'admire, les approcher, puis ils sont heureux de travailler avec moi. Fait que ça, c'est j'ai travaillé avec les propres influences sur mes BD, ont collaboré à mes BD. Fait que j'ai comme fait le full circle, comme on dit.
Et à travers ça, j'imagine qu'il y a toujours un défi de se renouveler parce que, ben en fait, dans la mesure où si l'a priori reste un peu dans le gore, donc on est dans le sanglant, on est dans... Après ça, bon, il peut y avoir un panache réaliste, un apanage érotique, un apanage grand guignol. Donc j'imagine que c'est trouver le bon scénario pour nous amener vers une direction vers laquelle on a envie d'aller, puis pas tomber dans répétition non plus, parce que comme n'importe quoi, faire quelque chose pendant 10-20 ans qui est dans le même cadre, ben, à un moment donné, ça finit par être redondant, donc il faut réussir à éclater puis à aller ailleurs, à l'intérieur du terrain de jeu qu'on s'est donné.
Ben, c'est un peu pour ça aussi que justement j'ai travaillé tellement longtemps sur Zombie Commando que collaborer sur d'autres BD ou des anthologies, ça me fait du bien. Puis moi-même partir une autre série qui reste un peu dans le trash et dans l'ultra-violence, mais qui est complètement un autre univers, qui est plus science-fiction. Fait que ça m'a aidé à me démarquer de pas changement des zombies et tout ça. Puis il y a d'autres choses que j'ai travaillé dessus, comme récemment les 5 grands groupes métal du Québec. Ça, c'était hors de ma zone de confort, dessiner des gens normaux. Ben normaux, ça reste des artistes, mais dessiner des gens qui existent, puis dans des situations de la vie de tous les jours, là, c'était un autre challenge pour moi.
Et à travers ça, en fait, si je parle à Steph Dumais, l'éditeur, dans le fond, qu'est-ce qui fait la qualité peut-être d'une bonne BD qui est dans le gore? Qu'est-ce qui va faire que ça va être un produit que toi, tu vas avoir envie d'éditer? Est-ce que c'est d'abord pour faire plaisir à toi, lecteur, ou est-ce que c'est parce que c'est un bon scénario, parce que ça va choquer dans le bon sens? Est-ce que...
Ben, je pense que c'est, je peux pas m'en sortir, là. C'est sûr, faut que ça me plaise moi-même. Faut que ce soit quelque chose qui m'accroche. Purement, sans trop réflexion, qu'il y ait un petit coup de cœur. Après ça, oui, je recherche le choc, souvent. Il y a des trucs qui me choquent moi-même. Je me dis, ben, ça a un impact. C'est sûr que j'ai des règles. Il y a des choses que je publierai pas, mais, il y a des trucs, là, des fois que je me dis, ben, il y a des gens qui font pire que ça, ou t'sais, il y a comme un genre de une genre de je sais pas, un spectrum de choc. Puis oui, la qualité du dessin, la qualité des scénarios. Je dirais que je focus plus sur le graphisme, sur le visuel que le scénario en soi. Si les dessins sont beaux, des fois même le scénario peut être secondaire.
Parce que dans le fond, c'est beaucoup dans le visuel qu'on va amener à créer l'expérience que tu cherches à faire vivre au bout du
Oui,
compte à tes
exact.
lecteurs.
Oui. Puis.
Et justement, en fait, je rappelle en fait qu'on peut les trouver la boutique en ligne sur bloodygirlcomics.com. Il y a quand même pas mal d'albums. Tu t'es monté un bon répertoire des tiens et de ceux des autres au fil des années. Et à l'intérieur de ça, si on se donne un petit temps de pitch, là, quelqu'un qui nous écoute, qui dit, OK, moi, j'en ai jamais lu, je connais pas tant ce genre-là, mais j'ai envie d'essayer. C'est quoi un peu peut-être les portes d'entrée que tu proposerais?
Habituellement, je dirais mes anthologies. Il me reste quelques copies de ma première anthologie qui s'appelle tout simplement Bloody Gore Comics. Ça, c'est un bon sampling de différents créateurs que j'ai travaillé avec. Il y a de moi, il y a de tous les autres créateurs, des gens qui ont jamais publié dans leur propre album et qui publient pour des anthologies comme ça. Fait que ça, c'est une belle porte d'entrée. J'en ai une deuxième qui est assez populaire, que faut que j'aille en réimpression encore. Zombie Commando, si quelqu'un a le goût de se lancer dans la série, il y a plusieurs numéros, il y a 8 numéros, plus des spin-offs que j'ai aussi. Sinon, je recommanderais des trucs plus récents, le Slaughter Kingdom, qui est vraiment l'essence pure d'horreur que j'essaie d'en faire le représentant de Blood Gore Comics.
Donc, ce serait vers ces trois-là. Donc, les anthologies, les Zombie Commandos ou Slaughtered Kingdom. pour les portes d'entrée, puis après ça, ben, on profite des vannes et de tes présences selon
Ouais.
les besoins. Steph Dumais, merci beaucoup.
Merci à toi.
Et je rappelle donc sur bloodygirlcomics.com pour en savoir un peu plus sur ton travail et sur la maison d'édition. Toujours à l'écoute de la vie en BD et ben, on le dit en ouverture, en fait, on en profite. C'est la première fois que l'émission en 13 ans tombe sur la journée de l'Halloween, à tout le moins dans sa première diffusion. Alors, ça nous donne une belle excuse pour naviguer à travers la thématique de l'horreur en bande dessinée. Et ben, en me disant de quoi on pourrait parler, je me suis dit, ben, je vais lancer l'invitation à un de nos libraires en résidence, Édouard Tremblay, qui est avec nous. Bonjour.
Hey, salut Raymond, salut à tes auditeurs.
Alors, je t'ai dit, en fait, est-ce que ça tente de me parler de bande dessinée à thématique horreur autour de l'Halloween? Et ben, je pense que ça n'a pas pris ni une ni deux, que tu avais déjà trois titres dont tu avais envie de nous parler au fil des prochaines minutes.
Ben, sans grande surprise, hein, on se connaît depuis maintenant quelques années. On sait bien que, tu sais, moi, comme Jérôme aussi, on est deux grands fans comme ça de l'horreur. Et donc, bien sûr, là, moi, j'avoue que, tu sais, le mois d'octobre, c'est toujours été un de mes mois de prédilection, non seulement pour les magnifiques, hein, paysages comme ça qui changent et tout, mais aussi pour cette fête-là d'Halloween qui, depuis que je suis tout petit, est pas mal l'une de celles qui, je dirais, m'excite le plus. Bon, évidemment, tous les déguisements, tout l'aspect un peu macabre et surnaturel, mais aussi, je pense, c'est ce mélange justement entre la nature, hein, qui s'endort et puis ce moment qu'on passe. Tu sais, comme cette vieille tradition de réfléchir, hein, aux gens qu'on a perdus, à nos ancêtres, à où c'est qu'on en est nous-mêmes dans, tu sais, dans la vie. C'est drôle parce que je suis complètement hors sujet, mais je suis en train de lire un très bel essai sur un chef amérindien qui s'appelle le Chef Joseph. Et puis, tu sais, il y a justement toutes ces beaux traits d'esprit où tu dis, tu sais, tu sais pas où t'es. Y quitter, si tu connais pas, tu sais, la voie de tes ancêtres, si tu suis pas la voie de tes ancêtres. En tout cas, ça pour dire que, je veux dire, tu sais, cette vieille tradition celtique, séculaire, immémoriale de l'Halloween, au-delà de cette fête, hein, enfantine qu'on en a fait, et bon, de tout ce plaisir. Moi aussi, j'adore me sucrer le bec, hein, avec des bonbons et
Oui,
tout.
mais ça
Mais
devient une extension. En fait, c'est une fête qui a beaucoup évolué, qui a beaucoup progressé, mais dont les assises sont quand même toujours restées un peu autour des mêmes traditions, autour des mêmes mythologies, autour des mêmes, la même volonté, dans le fond, de célébration aussi, que ce soit dans son appendice familial ou que ce soit dans ses appendices païennes d'il y a 2000, 3000 ans.
ben exactement, tu sais, puis toujours de garder justement cette même, comme je dis, ce même aspect, hein, un peu surnaturel, cette frontière justement entre nous monde, celui des morts, tu sais. C'est-à-dire, on est dans une société qui peu ou prou, tu sais, par la force des choses, a quand même éliminé plusieurs de ces, disons, de ces rites, hein, comme ça, de ces rituels, ces pratiques. Mais reste que je trouve que dans l'Halloween, dans ce que ça sous-entend, dans ce que ça imprègne, il y a quelque chose qui, moi, m'a toujours interpellé. D'où pourquoi, je me dis, tu sais, quelle bonne occasion pour se faire peur un petit peu, parce que, je sais pas, ça fait partie, encore une fois, aussi, hein, de ce qu'on est, du bon, à une certaine époque, évidemment, c'était un peu en guise d'avertissement, hein, on créait comme ça des histoires parfois exagérées, parfois horribles, pour que les gens comprennent, ils perçoivent comme ça une certaine leçon. D'ailleurs, ceux qui connaissent les contes de fées savent qu'à l'origine, c'était souvent assez macabre également, et que ça servait justement un peu d'avertissement. Et maintenant qu'on est, hein, on se le cachera pas, dans une société, une civilisation qui est beaucoup plus confortable, hein, beaucoup plus sécuritaire, beaucoup plus, en tout cas dans notre cas, bien sûr, hein, je parle pas de nos frères et sœurs, hein, au Proche-Orient, ou bon, j'entrerai pas là-dedans, non. Et donc, je pense que justement, ne serait-ce que de par ce confort-là et de par cette chance qu'on a, ben, c'est peut-être encore plus important de se rappeler un peu à ces vieux réflexes de survie, ces vieux instincts qui, à une certaine époque, hein, faisaient qu'on pouvait revenir à la maison au lieu de, justement, hein, être victime de. X ou
Puis
Y.
avec toujours le pas de recul de se dire, ben oui, la BD peut créer du suspense. Oui, la BD peut créer des réactions de type peur aussi. C'est un médium qui a une relation qui n'est pas la même que le cinéma avec la peur et pas la même que le théâtre avec la peur, mais réussit à générer. On le voit depuis, en fait, je pense, depuis que tu passes à l'émission, on s'est proposé des titres justement qui rentraient dans la sphère de l'horreur. Et je pense que désormais, dans le fond, on n'a plus non plus à justifier le fait que la bande dessinée peut entrer à pieds joints dans ce type de récit-là, dans ce type de genre-là, qui est le genre horrifique.
Et non seulement à pieds joints, mais avec justement, et je pense que ça va être, je pense qu'avec l'échantillonnage que j'ai ce soir, vous allez voir, avec aussi, encore une fois, des approches qui sont très différentes, parce que, hein, il y a l'horreur et il y a l'horreur, elles se déclinent de toutes les manières, c'est pas les mêmes choses, hein, qui font peur aux gens, c'est pas la même. Et donc, on peut se permettre comme ça des traitements assez diversifiés et d'aller chercher justement un peu, tu sais, peu ou prou, un peu tous les genres d'amateurs et un peu, tu sais, tous les genres de peur qu'on va aller, de ceux qui sont capables d'en prendre beaucoup, à ceux à qui, des fois, tu sais, ça prend pas grand-chose pour nous faire passer des frissons dans le dos. Hein. Et donc, si tu permets, ben, j'irai directement avec justement avec la première. Une belle petite découverte. C'est la plupart aussi des séries quand même assez récentes. Je me suis dit, hein, allons-y justement avec des trucs nouveaux, permettre aux gens de continuer, tu sais, de progresser dans tout ça. Et donc, la première qui est parue chez Ouguine et Mounine et qui s'appelle Killadelphia. Killadelphia, c'est pas une invention. En fait, je crois que c'est bien compris que c'est le nom qu'on donne parfois à Philadelphie en raison des problèmes endémiques, hein, justement de criminalité, puis bon, de mort et tout. Et donc une BD qui a été faite par un trio Barnes, Alexander et Nookt, et qui vont utiliser cette BD-là. Oui, pour bien sûr nous présenter une histoire d'horreur. Une histoire d'horreur qui va aller s'intéresser au mythe séculaire du vampire, mais en essayant de le réinventer, bien sûr, hein, de le rafraîchir un petit peu. Mais d'abord et avant tout, pour nous présenter, je trouve ça intéressant, sur le fond de cette horreur-là, la relation entre un fils et son père. Une relation tumultueuse qui s'est mal terminée et qui, par un concours de circonstances comme ça, a la chance de, disons, de voir un second souffle, de voir une deuxième potentialité, enfin, ouvrir. Je m'explique, comme bien sûr vous l'aurez compris, on est à Philadelphie où revient un jeune policier qui s'appelle Jimmy Sangster, en fait James Sangster Jr. Parce qu'il a reçu la nouvelle que son père, hein, James Senior, comme ça, est mort dans des circonstances assez sinistres, assez étranges, pendant une intervention comme ça, il s'est fait coincer. On ne sait pas trop qu'est-ce qui est arrivé, mais tout ça a mal tourné. Évidemment, le type n'a pas survécu. Et on comprend assez tôt aussi que même si, bon, hein, c'est son devoir un peu de fils, que James, justement, Jimmy, hein, Junior, et était vraiment quelqu'un, tu sais, dans l'ombre de son père, s'entendait particulièrement pas avec lui, même si pourtant il partageait quand même le même métier. Et, tu sais, comme je disais, devoir filial étant, bon, va quand même se rendre sur place, va commencer à lire un peu, bon, les dernières notes, les journaux de son père et tout, pour se rendre compte que son père était sur une espèce d'enquête assez singulière, où, selon lui, il y avait comme ça à Philadelphie des vampires qui, cachés dans l'ombre, manipulaient un peu, hein, la société, et que non seulement il y avait des vampires, mais que tout ça remonterait pratiquement au père fondateur de l'Amérique, en
Donc, on
fait,
joue
et que.
avec les conspirations, on joue avec les mythologies plus vampiriques, on joue avec en plus les codes de l'enquête. Donc, c'est plusieurs degrés, là.
Exactement, et tout ça est, hein, très très bien mené. Et ce qui va amener, je dirais, de l'eau au moulin de l'histoire, c'est que justement, ben, Jimmy, par la force des conclusions, va décider de juste donner un peu une chance à son père et va en arriver à la conclusion que si tout ça est arrivé, son père ne doit pas être aussi mort qu'on le pense. Il va se précipiter au cimetière. Je vous vois le pas de punch trop là. Il va se précipiter au cimetière, déterre son père qui l'attend comme ça, bras croisés dans la tombe, les deux yeux ouverts, puis il dit: Mon Dieu, t'as donc bien pris ton temps. Parce que là, le père a été transformé en vampire et c'est comme je disais, cette deuxième chance-là, ils vont pouvoir se retrouver ensemble et essayer justement de dépatouiller la chose, parce que là, vous aurez compris, bien sûr, que hein, Jimmy, là, ne peut plus vraiment remettre en doute la véracité surnaturelle de la chose, hein, son père étant lui-même un des vampires.
La
Et
preuve vivante.
oui, la preuve vivante, morte vivante, hein, c'est le cas de le dire. Et de par, tu sais, ce lien aussi vampirique-là, ben on va se rendre compte qu'un de ceux justement qui tire les ficelles, eh bien, c'est le deuxième président des États-Unis, John Adams lui-même, qui avait été transformé en vampire, écoute, lors d'une expédition, je pense, dans les Caraïbes, ou d'un voyage dans les Caraïbes, où il ramène ça et donc perpétue ça aux États-Unis. Et là, justement, John Adams, on s'entend, là, je veux dire, c'est un vampire qui s'est modernisé, là, il n'est pas habillé avec sa vieille perruque poudrée. Ses habits du 18e, 17e siècle. Mais c'est monté comme ça toute une bande de, bien sûr, hein, de serviteurs, de sbires, dont certains jeunes vampires qui sont pris à même les communautés afro-américaines avec la promesse que là, on va recréer un nouvel ordre vampirique qui va renverser la société et que, enfin, pour la première fois, ils vont avoir voix au chapitre, ils vont pouvoir décider ce qu'ils veulent. Mais on va se rendre compte que certains, tu sais, un petit peu plus, disons, allumés que les autres, se disent, ouais, mais ce que je pense que ce que John Adams est en train de faire, essentiellement, c'est juste de nous resservir la même sauce sur un autre plat et que, au final, on va se ramasser dans la même situation. Et c'est pour ça que je te dis que, hein, quand tu dis que ça joue comme ça à plusieurs niveaux,
Oui,
ben,
même le
on a,
niveau social, puis
ah
ouais.
non, non, c'est ça, on a également ce niveau de critique sociale-là qui joue. Et d'ailleurs, quand en quatrième de couverture, on va constater que le comic, justement, a été encensé par Jordan Peele, à qui on doit Get Out, à qui on doit justement quelques très, très bons
Oui,
films
mais puis
d'horreur à
ça nous
thématique
rappelle,
afro-américaine aussi. Fait que, tu sais, tout ça s'interconnecte. Et donc, quelque chose qui est,
oui.
tu sais, moderne, qui est comme ça, polyvalent, je dirais, qui joue,
Puis
là,
quelques
tu sais.
représentatifs, enfin, on parlait des fondements de l'horreur d'un point de vue cinématographique, ben, veut pas, ou d'un point de vue culturel, ben, c'est rattaché à des thématiques sociales, la crainte de la science avec Frankenstein, les zombies de Romero qui nous ont amenés vers la crainte du capitalisme aussi. Donc, les archétypes sont ancrés dans des réalités sociales. Alors, c'est intéressant de voir qu'on garde un peu ce cadre-là à l'intérieur d'un récit pluriniveau au final.
C'est là une vérité en fait indéniable du genre de l'horreur. La peur, hein, est toujours corollaire de l'époque dans laquelle on vit, des préoccupations dans laquelle on vit. J'avais lu à l'époque un bel essai sur l'évolution un peu tu sais, de la figure du zombie, comme ça, tu sais, évidemment dans la culture et tout. Et le zombie en était un exemple parfait, à savoir que la façon dont il était créé, que c'était par exemple au début, tu sais, par évidemment des rituels vaudous, parce que lorsqu'on avait peur, c'était justement les gens des Caraïbes qu'on connaissait pas et tout. Par la suite, c'est devenu des scientifiques fous, après ça, les méchants nazis, après ça, les méchants communistes, après ça, c'est devenu, tu sais, cette obsession du consumérisme. Le zombie, comme ça, s'est créé et a évolué vraiment au fur et à mesure des préoccupations sociales et tout. Et donc, in extenso, hein, ben, c'est exactement comme tu le dis, l'horreur elle-même va aller s'inscrire dans tout ça. Et c'est intéressant parce que ça fait bien justement le lien avec le deuxième titre, en fait, que je veux présenter. Celui-là, je vous l'avoue, c'est pour les cœurs solides. Là, on est dans un genre que moi j'aime bien, mais qui est très, 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 très gore, très dur, très implacable.
Oui, puis enfin, un genre qui aussi, dans le fond, est beaucoup issu quand on regarde, parce que ma culture horrifique, comme beaucoup de gens, est d'abord cinématographique, mais il y a eu une amorcée, enfin une avancée de ce genre-là, avec des balbutiements des années 80-90, ça a vraiment explosé avec des films comme ça, avec la scénographie d'Eli Roth, avec l'horreur japonaise, sud-coréenne aussi, qui ont vraiment embrassé l'idée du gore, qui venait un peu du grand guignol au bout du compte, donc il y a toujours aussi des continuités historiques. On est clairement là-dedans avec ton prochain titre, là.
Ben, exactement, parce que ça va mêler justement, je dirais, et t'as tout à fait cerné mon point, en fait, cette tradition justement grotesque, exagérée, satirique, et qui sert, non, j'irais là, non pas tant à rendre ça encore plus horrible, mais j'irais même au contraire à essayer de diminuer par l'exagération La véracité, elle, insoutenable de tout ça, parce que ici, on est dans une série qui s'appelle Red Room, d'un gars qui s'appelle Ed Piskor. Et donc, dans Red Room, si vous connaissez un peu le phénomène des Red Rooms, ce serait des sites comme ça, Internet, sur ce qu'on appelle le Dark Web, donc Internet illégal comme ça, où il se passe toutes sortes de tractations ou de choses assez épouvantables, en tout cas, à ce qu'on en raconte. Et il y aurait ces fameuses Red Rooms où des gens paient comme ça pour voir des individus, pour voir des fois des animaux, tout, être abominablement torturé, être abominablement mis en morceaux pour le plaisir, hein, des foules. Justement, tu vois, ça renvoie bien sûr, hein, à The Hostel, à ça, à tout ce mouvement de torture porn, comme on l'appelait, qui a émergé fin 90, début 2000, mais qui, et
Oui,
tu l'as
puis qui
dit,
existait avant avec les stuff movies, en fait, et autres, mais tu sais, qui a toujours un peu existé, cette idée de payer pour voir des gens mourir,
Eh ben,
c'est...
exactement, hein, et qui va aller chercher, emprunter aussi, tu sais, à Clive Barker, à l'horreur des années justement 80, qui était, tu sais, parfois assez viscérale, assez charnelle, assez, justement sanglante. Et donc, ben, ici, tout bonnement, ce qu'on va voir, c'est justement, on va explorer un peu certains des protagonistes, des plus célèbres de ces fameuses Red Room-là. Et bien sûr, hein, comme je le disais, dans tout ce côté très sanglant, très exagéré, on va voir, c'est ça, des gens être bien sûr mis à mal, torturés de toutes sortes de manières absolument épouvantables. Mais ce qui je trouve qui est, je dirais pas intéressant, mais ce que je trouve qui est vraiment le pinacle de l'horreur là-dedans, au-delà de justement ces scènes-là, c'est toujours les damnés commentaires des spectateurs. C'est là où l'horreur se fait parce qu'il y a évidemment tout ce mélange d'amusement, de détachement, d'excitation parfois, hein, je veux dire, c'est des choses, et sans chercher aucunement à justifier ou à excuser la chose, ce qu'on montre aussi, c'est que ça existe parce qu'il y a une demande. T'sais.
Oui, en fait, donc on joue à fond avec d'un côté la culture du voyeurisme, la culture Internet, où donc on est un peu comme lecteur en immersion dans ces chatrooms-là, dans ces pièces-là, où tu vois le flux de commentaires, où tu l'observes entre guillemets en temps réel.
Exactement, là, on nous met comme un peu dans la peau d'un de ces participants-là, ce qui ajoute d'autant plus, je dirais, au malaise de la chose. Et là, ben, c'est justement, on voit comment, peu importe, en fait, n'importe quel type, justement, de situation et tout, que la normalisation, la banalisation de ce truc-là, peu importe son intensité, va finir justement par atteindre un stade où on se dit, mais ça n'a pas de bon sens. Comment on peut en arriver à s'amuser puis à faire un spectacle de ça? Puis après ça, je me dis en même temps, oui, mais attendez, là, pensez au camp de la mort, pensez à la Shoah, à tout ce qui est arrivé, pensez aux tueurs en série, aux injustices qui ont été, tu sais, aux marches de la mort arménienne, aux Premières Nations qu'on a parquées dans des réserves. Encore une fois, tu sais, notre confort qu'on a ici comme occidentaux, comme nord-américains, tu sais, a tendance à nous faire oublier que cette horreur-là qu'on a ici, qui est, comme je disais, portée au nu, qui est exagérée, elle existe, là. Elle existe, que des gens la vivent, que des gens la subissent dans toutes sortes de mesures, et que, tu sais,
Mais
faut pas le mettre.
une BD comme Red Room, Édouard Tremblay, est-ce qu'on lit ça pour se provoquer? Est-ce qu'on lit ça pour voir si on est capable de? Ou est-ce que justement, au-delà de l'aspect provocation, il y a un récit, il y a un travail qui est particulier? Je veux dire, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui nous écoutent qui disent, ben, je comprends le concept, mais je ne lirai jamais ça. J'ai pas envie de m'assujettir à, de m'obliger à regarder ça. T'sais.
Et c'est tout à fait, je veux dire, c'est tout à fait correct également. Hein. On s'entend que, comme je disais, faut quand même aborder ça. Je pense que c'est important sous le terme d'un divertissement. Hein. C'est une bande dessinée, c'est pas non plus, ça se veut pas non plus, tu sais, un documentaire ou peut-être plus un chocumentaire, si on veut, hein, de ce côté-là. Mais je pense que c'est vraiment, tu sais, je veux dire, ça, c'est un genre, tu sais, inévitable, une part intégrante des genres de l'horreur, et pour la même raison que, tu sais, justement, on se dit pourquoi on irait se taper quelque chose comme Tokyo Gore Police ou comme, justement, tu sais, Hostel. Ben, il y a des fois, oui, ce petit côté, je dirais, voyeur, faut l'appeler comme ça, et ce côté, oui, qu'on a gardé dans une certaine mesure et qu'on avait déjà, enfin, je pense, de se mettre un peu au défi, de voir jusqu'où on peut pousser comme ça notre propre courage ou comment
Oui,
diverses situations.
dans un contexte
Et
sécurisé, comme avec le cinéma, dans le fond, où tu provoques la peur des situations d'adrénaline, mais dans le confort, dans la sécurité de ton foyer au final.
ben c'est ça d'autant plus, et là tu sais, bon, t'sais, on peut, c'est ça, t'sais, là on peut refermer le livre ou tu sais comme le film, t'sais, on peut se fermer les yeux et entrouvrir simplement deux petits doigts pour voir si la scène est encore
Et puis en
trop
sachant que c'est de la fiction.
en sachant que c'est de la fiction, et c'est ça justement comme je disais, qui moi je pense me permet justement d'avoir un certain plaisir un peu et de à cet humour noir là, à ces contextes là. Parce que là, bon, on est dans la fiction. J'aurais beaucoup plus de malaise, je sais pas, à lire, par exemple, la biographie de quelqu'un qui a vécu Auschwitz, par exemple, t'sais, où là, je veux dire, on n'aura pas besoin d'aller dans ce grand fort de détails abominables pour me mettre mal à l'aise et me bouleverser. T'sais, là, oui, ça repose sur des choses qu'on présuppose existent. Et mon Dieu, j'espère que s'il n'y en a pas tant que ça. Mais, t'sais, là, reste quand même que c'est un récit fictif. Et c'est ce que je trouve intéressant, encore une fois, parce que je prends un exemple bien personnel, mais ça m'a toujours fasciné parce que j'ai comme ça un ou deux de mes oncles dans ma famille, t'sais, des types vraiment bien plantés, t'sais, qui me dépassent une demi-tête, des gars qui vont en chasse les deux pieds dans la boue, puis qui passent 2, 3 nuits dans le bois et tout, mais à qui je peux pas montrer un simple, disons, slasher comme Halloween parce que ils dormiront pas de la nuit, t'sais. Alors que moi, je me dis, mon Dieu, si j'étais 3 jours dans le bois à devoir me débrouiller, me semble que ça serait pas mal plus mal à l'aise que assis devant ma TV à regarder, t'sais, du monde avec des masques en caoutchouc qui, t'sais, font
Oui, ben toujours un peu la
t'sais.
peur aussi animée du fait de la forêt, de la noirceur des ténèbres, du fait que tu sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière l'arbre et le reste, qui a tellement alimenté nos fictions, de toute façon. Je veux dire, tu regardes tout ce qui est littérature horrifique, joue avec justement ce que tu vois pas, avec l'inconnu, avec un peu comme ton Red Room avec le Dark Web. Je veux dire, on n'ira jamais sur ces plateformes-là pour la plupart des gens. On sait que ça existe, mais on sait pas comment y accéder, puis on souhaite pas nécessairement y aller non plus, là.
Ben voilà, hein, c'est justement, c'est l'interdit, c'est l'inconnu, ce fameux inconnu que Lovecraft, hein, nous vantait justement comme un des plus grands moteurs de l'horreur, hein, de ce qu'on ne sait pas trop, de ce qu'on ne sait pas où ce qui est vrai et ce qui ne l'est plus. Et c'est un peu le cas justement dans la dernière BD que je veux vous amener, donc qui s'appelle La nuit de la goule, par un type, un vieux, je dirais, un vieux baroudeur, un vieux routier du genre d'horreur, hein, Scott Snyder, à qui on doit entre autres l'extraordinaire série American Vampire, qui avait fait beaucoup parler d'elle à l'époque. Et il est en équipe ici avec un dessinateur qui s'appelle Frank Cavilla. Et ils vont nous rendre hommage comme ça à tous ces vieux films d'horreur classiques. Vous l'aurez compris déjà avec un titre comme La nuit de la goule, ça sent comme vieux film d'horreur de Jean Rollin ou de
Glamour,
t'sais,
quelque chose, là.
Hammer, t'sais, voilà, des trucs comme ça. Et c'est effectivement ce qu'on va amener ici, mais justement avec cette espèce de peur de l'inconnu et de la réalité. Parce qu'on va suivre, enfin, un père, encore une fois, qui essaie d'impressionner un petit peu son fils, qui a 12-13 ans, la famille est séparée, tu sais, et puis bon, à cet âge-là, le petit gars, il regarde plus vraiment son père comme comme un héros. Mais les deux, tu sais, avaient l'habitude de triper sur, justement, les vieux films d'horreur classiques, comme ça et tout. Et par un concours de circonstances, le père réussit à mettre la main sur un vieil enregistrement, un truc classique, que supposément plus personne n'avait été capable de voir, qui était disparu et qui s'appelle La nuit de la goule, mais qui aurait été supposément le meilleur film d'horreur jamais réalisé et tout. Et là, tout d'un coup, le père entend parler d'une maison de retraite où on aurait retrouvé, en fait, le réalisateur de ce film-là, qui serait disparu après l'incendie des studios qui avait détruit les bobines et qui l'avait laissé supposément pour mort ou disparu, on ne savait plus trop. Et donc, le père et son jeune fils, sous un prétexte bidon, vont se rendre à la maison de retraite, vont rencontrer ce vieux type-là qui est brûlé, qui est usé, qui est vraiment très, très mal en point. Et avec qui, bien sûr, ils vont commencer à parler. Le père va commencer à parler, je suis un de vos grands fans, La Nuit de la Goule et tout. Qui est un film, dans le fond, qui raconte qu'il y aurait une espèce d'entité comme ça, millénaire, la fameuse Goule, qui est une espèce de horla, une espèce de démon capable de se réincarner, de passer d'un individu à l'autre, et qui serait à la source de peu ou prou à peu près toutes les créatures horrifiques et mystiques qui ont été créées comme ça dans nos mythologies, que ce soit le vampire, que ce soit le loup-garou, que ce soit, bon, nommez-le, tout ça aurait son assise dans des interprétations de cette fameuse goule-là, qui justement se perpétue, amène dans son sillage un paquet de malheurs. On pense à la peste noire, on pense à la guerre mondiale, vraiment des grands
Tout est
fléaux
là.
comme ça. Tout est dans elle, en fait, ce qui en fait vraiment, c'est la créature, le diable incarné. Et en plus, ben, il y aurait des gens comme ça, on a fameux, qu'on appelle des praticiens de l'ordre de la mouche, qui travailleraient toujours en secret à perpétuer l'héritage de cette goule-là, à la ramener et à essayer de lui faire un jour, évidemment, à déferler comme ça sur le monde. Et donc, le film raconte comment le père du réalisateur, pendant la Deuxième Guerre mondiale, aurait découvert dans un monastère un temple, en fait, de ces sectaires-là et aurait ramené en lui la goule aux États-Unis et comment ils auraient réussi à la vaincre grâce à son fils, grâce à ses amis et tout. Mais là où ça devient intéressant, parce que tout ça, évidemment, pour l'homme, c'est une musique qui admire ce réalisateur-là. Il dit, écoutez, votre film, c'est vraiment extraordinaire, la façon dont vous avez imaginé tout ça et tout. Et le vieux lui dit, non, là, il dit, faut que tu comprennes que ce que j'essaie de vous montrer là, c'est comment vous débarrasser de la goule, parce que tout ça est vrai. Parce que c'est arrivé à mon père. Et ici, on n'est pas dans une maison de retraite, là. Ici, on est dans une maison cachée. Moi, je suis prisonnier de l'ordre de la mouche, puis ils veulent se servir de moi pour rappeler la goule. Sors-moi d'ici au plus vite. Mais est-ce que ce vieux-là, qui délire, comme je vous dis, qui est visiblement plus tout à fait là, est-ce qu'il est en train de raconter la vérité? Est-ce qu'il est en train de monter un bateau parce que justement, pour lui, la réalité du film s'est complètement entremêlée avec la vie de son père et tout ça. Et donc, on avance dans cet inconnu-là pour découvrir finalement, est-ce que cette fameuse goule-là existe vraiment? Est-ce que l'ordre de la mouche, ce n'est que de la flûte? Est-ce que ce type-là est vraiment prisonnier? Et donc, toute bien sûr, la véracité, le vrai du faux dans tout ça, c'est une courte BD quand même, tu sais, qui est menée, c'est ça, un one-shot, hein, comme on dit, d'un seul coup, mais et comme vous dites, Snyder, c'est un gars qui connaît son affaire, et on le voit, là, magnifiquement, il nous mène en bateau là, tout le long. On n'est pas capable de décrocher de cette
Mais en
BD-là.
fait, déjà le synopsis accroche. Sincèrement, tu racontes ça, puis je me demande, OK, qu'est-ce qui arrive? Puis, je veux dire, ça, c'est la mort, tout est là pour créer un récit, une nouvelle, au bout du compte, horrifique, qui va te happer, qui va te donner envie. Je pense que c'est aussi ça aussi, au bout du compte, l'horreur. Oui, c'est de se provoquer. Oui, c'est de commenter, de refléter la réalité. Mais c'est aussi de nous tisser un fil d'Ariane où tu as peur, tu es stressé, mais tu as envie de voir où ça va t'amener
Ben,
aussi.
exactement, hein, c'est toujours le danger. On sait qu'il faut pas ouvrir la porte. On s'est fait dire qu'il fallait pas ouvrir la porte,
Mais
mais
qu'est-ce qu'il y a derrière?
qu'est-ce qu'il y a derrière cette fameuse porte-là qui fait qu'on peut pas l'ouvrir, tu sais? Et voilà ce que fait quelque chose comme La Nuit de la Goule. Et comme je disais, avec le contexte, on voit évidemment les extraits du film parce que là, on va jouer entre les deux époques, bien sûr, de l'ère là et de voir un peu, comme je disais, pour comprendre le fin mot de toute l'histoire. Qu'est-ce que, justement, ce réalisateur-là a vécu à l'époque? Est-ce que son père et tout a vraiment réalisé? Et bien sûr, comme je disais, les extraits du film qui est supposément est mythique et tout. Donc, un ensemble bien, 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 bien mené. Et n'importe qui est un tant soit peu, comme le disait, fan là, des vieux films d'horreur classiques, des vieux films d'Hammer et tout, même de Fantômas à la limite et tout. C'est vraiment, comme je disais, c'est une ambiance un peu à la. Je dirais, c'est américain, mais il y a une ambiance un peu à la française, un peu à la. Sauf que ça va mieux, c'est que même Night of the Ghoul, c'est la nuit de la ghoul, comme je disais, ça sonne bien et tout. Et ça dégage, donc écoute, une réussite surtout de la ligne. Et quand même, oui, horrifique, mais on s'entend que là, justement, on n'est pas dans Red Room et tout. Donc, tu sais, pour quelqu'un qui veut se donner un peu disons, de frisson, mais qui veut d'abord et avant tout, tu sais, être emporté par un fil narratif, le fun, un concept qui est justement intéressant et qui nous garde comme ça un peu sur nos, hein, sur nos talons. Ben, avec celle-là, on se trompera pas, là, vraiment, c'est magnifique, magnifique.
Alors, je rappelle les trois propositions d'Édouard Tremblay pour cette édition Halloween, horreur de la vie en BD. Alors, Kill Adelphia de Barnes Alexander et Nook chez Huggins et Muggins et Munnins. Et ensuite, deux titres chez Delcourt, Red Room de Ed Piscard et La Nuit de la Goule de Snyder et Franca Villa. Édouard Tremblay, merci beaucoup.
Comme toujours, un grand plaisir, mon ami.
Alors voilà qui conclut cette édition de La vie en BD. C'était Raymond Poirier au micro. Toujours un plaisir d'être avec vous et on se dit à la semaine prochaine.